Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Ce soir, nous sortons de Radio Courtoisie. Ce soir, nous déambulons dans les couloirs du métro. Nous nous dirigeons vers un lieu qui nous ouvre ses portes et pas n'importe quelle porte. Exceptionnelles par leurs dimensions qui les rendent plus grandes que la porte de bronze de Saint-Pierre de Rome. Des portes en bronze, une fonte extrêmement savante. Elles peuvent défier le temps à l'image des bronzes antiques du bronze nu. Sans artifice. Sculpté par le baron Henri de Triquetil en 1841, un livre d'images de l'Ancien Testament. Pour arriver jusqu'à cet endroit, qui est notre chez-nous ce soir, il faut affronter le chaos urbain et pour le moment la chaleur. Une fois arrivé, c'est l'histoire avec un grand H qui s'affiche comme une avalanche de printemps. Le chaos devient silence, les temples romains s'harmonisent à nos monuments chrétiens. C'est alors une allure inégalée, un prénom à jamais gravé, Marie-Madeleine, la Madeleine. Une œuvre à contempler, une œuvre à comprendre, mais aussi à écouter, car la pierre parle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monseigneur Chauvet, curé de l'église de la Madeleine. Je le remercie pour nous ouvrir les portes de la Madeleine pour cette série. Ce soir, nous sommes avec Olivier Perrin et derrière le clavier du grand orgue de la Madeleine se cache un musicien hors pair, habité par le sens de la transmission. Cet homme, c'est Olivier Perrin. Nommé en 2020, titulaire adjoint de ce grand orgue historique Cavaillé-Coll et marchant dans les pas de Gabriel Fauré ou Camille Saint-Saëns, Olivier Perrin mène une double vie passionnante. Concertiste international et lauréat de grands concours d'improvisation, il met aujourd'hui son expérience au service de musiciens ou futurs musiciens en tant que directeur de l'ESMD à Lille. Portrait d'un artiste, d'un humain hors du commun, excellent improvisateur, excellent organiste, Olivier Perrin. Nous devons cette soirée à Monseigneur Chauvet, à de belles rencontres, des moments intimes, des moments de partage, et c'est tellement rare. Nous vous les offrons ce soir et j'espère que dans cette soirée, vous trouverez du réconfort.
Come
Nous venons d'écouter Marie-Madeleine au pied du Christ d'Antonio Caldara, composé en 1698, interprété ici par le contre-ténor Damien Guillon et l'ensemble Le Banquet Céleste. Le Banquet Céleste, fondé en 2009 par Damien Guillon, est un ensemble de musique sur instruments d'époque et il est en résidence à l'Opéra de Rennes. Le Banquet Céleste poursuit son exploration de la musique baroque européenne. Ce soir, nous allons au cœur de la liturgie, de sa beauté. Nous sommes le 14 mai 2026. Il est 18h. Nous avons de la chance, nous sommes invités par la Madeleine et ce soir par Olivier Perrin qui est notre ange gardien. Il nous invite au grand orgue, nous allons nous asseoir à côté de lui. Il nous parle de cet instrument géant, de son rôle dans la liturgie et comment il parvient à colorer le culte et à procurer des émotions qui incitent à la prière. Car Olivier Perrin est un organiste comblé, il possède une grande spiritualité et la foi. Une voix unique pour vous ce soir, il se livre, il vous parle à l'oreille en exclusivité sur Radio Courtoisie. Et avant cela, il faut monter l'escalier qui nous mène au grand orgue et Eric nous y attend.
Vous jouez pour la messe?
Oui, c'est ça.
Olivier Perrin?
Oui.
Vous pouvez vous présenter ou je vous dérange?
Alors, je vais bientôt jouer.
Vous allez reprendre?
Oui, je vais reprendre bientôt.
Alors, qu'est-ce que vous jouez?
Là, je vais m'apprête à accompagner le refrain de prière universelle. Oui. Et une succession de chants, voilà, de chants d'assemblée qu'on accompagne au grand orgue, à la messe du dimanche soir, en l'occurrence aujourd'hui. C'est pas un dimanche, mais c'est une grande fête. Voilà. Donc c'est une partie du rôle de l'organiste de grand orgue, c'est d'accompagner la foule dans son expression de sa foi, dans l'expression de sa foi.
c'est offertoire. Une belle improvisation. Oh là là, magnifique.
C'est moins contraignant qu'une fugue. Donc en fait, j'ai improvisé à l'offertoire la présentation des offrandes qui marque le début de la deuxième partie de l'Eucharistie. J'ai improvisé sur le thème du chant que vous venez de chanter.
Nous venons d'écouter Olivier Perrin improviser pour la messe du 14 mai 2026. Dans ce moment solennel de la consécration, Olivier Perrin et la Madeleine nous offrent un havre de paix, un moment unique, c'est indicible. À chaque fois que je vais à la Madeleine, je me sens protégée, je me sens liée à cette architecture, au son. J'ai l'impression que les orgues nous propulsent au-dessus du présent, au-delà de nos préoccupations. J'ai l'impression que les gens qui nous reçoivent sont des anges, qu'il circule dans l'église en apesanteur, c'est presque étrange, presque surnaturel. Olivier Perrin est généreux et c'est sincère. Il nous explique maintenant ce qu'est l'improvisation et le rôle de l'improvisation. Dans une messe, l'improvisation n'est pas un simple remplissage sonore, c'est un art liturgique à part entière, dont l'orgue français est le grand spécialiste. L'improvisation intervient à des moments clés pour lier le rituel, l'entrée, la sortie, pour accueillir les fidèles ou accompagner leur départ. L'offertoire et la communion, des moments de transition plus longs où l'organiste crée une atmosphère de recueillement, de prière ou de méditation. L'organiste improvise de courtes pièces pour répondre au chant du prêtre ou de la chorale ou pour combler un temps mort visuel. Le grand avantage de l'improvisation, contrairement à une pièce écrite qui a une durée fixe, l'improvisation permet à l'organiste d'arrêter de jouer exactement à la seconde près où le prêtre est prêt à parler, assurant la fluidité parfaite de la cérémonie. Au sens technique, improviser à l'orgue ne signifie pas jouer n'importe quoi au hasard. C'est un art de la composition en temps réel, en respectant des règles académiques extrêmement strictes. Pour un musicien comme Olivier Perrin, cela demande une maîtrise de plusieurs disciplines, la gestion de l'instrument. Il doit choisir instantanément quel jeu, les timbres de l'orgue, les flûtes, trompettes, bourdons. Il doit aussi jongler en temps réel entre ses mains sur les différents claviers et ses pieds sur le pédalier. Il doit connaître parfaitement l'harmonie, l'enchaînement des accords et le contrepoint, c'est-à-dire la superposition de plusieurs mélodies indépendantes. L'organiste part généralement d'un thème et lui applique instantanément une structure classique préexistante, une suite, une variation, c'est-à-dire répéter le thème en changeant le rythme ou l'accompagnement, une fugue, la forme la plus complexe, un clavier joue le thème, un deuxième y répond, puis le pédalier entre à son tour, le tout de manière parfaitement imbriquée. L'improvisation technique est un équilibre parfait entre une liberté créative totale, une intuition émotionnelle instantanée et une rigueur académique digne d'un architecte. Pour Olivier Perrin, l'improvisation, c'est l'insaisissable, une aventure, une pièce qui va disparaître au fur et à mesure qu'elle est créée. Et j'adore cette définition. On l'écoute nous en parler.
Et donc l'improvisation, c'est une part importante de notre activité. C'est sans doute ce qui permet de mieux coller à la liturgie, de mieux coller à l'action qui se déroule à l'autel. De par le choix des registrations, du langage, des thèmes, de s'adapter vraiment à l'action liturgique et de procurer des émotions chez l'auditeur qui incitent à la prière. Donc c'est aussi le rôle du grand orgue, voilà, d'improviser, de colorer la liturgie en fonction du temps liturgique et du moment liturgique.
Je vous voyais très concentré sur votre écran en regardant l'action. C'est jamais la même chose, ça peut changer.
En fait, je m'adapte vraiment à ce qui se passe et notamment dans la contrainte de la durée. Donc il faut que mon improvisation dure un certain temps, pas trop longtemps, voilà, colle vraiment à ce qui se passe. C'est pour ça que je regarde l'écran, c'est pour ça que je suis concentré aussi sur ce que je fais, parce que improviser, ça demande aussi une certaine concentration. Mais le timing n'est pas toujours le même, on est en direct, c'est du live, et il faut vraiment s'adapter à ce timing, et vous voyez, j'enchaîne. Thank you.
professeur de musique aussi.
J'ai enseigné. J'enseigne plus actuellement, mais j'ai enseigné l'orgue, la formation musicale. Voilà. Mais, et l'improvisation également, mais ce n'est plus le cas actuellement.
L'improvisation, ça s'enseigne, je sais, dans le jazz, par exemple, mais comment on conçoit l'improvisation, par exemple, en musique classique, en musique sacrée, comment...
Alors, il y a effectivement une tradition dans le jazz, il y a encore une tradition de l'improvisation chez les musiciens classiques, notamment chez les musiciens baroques. Et puis finalement après il reste plus que les organistes qui improvisons encore aujourd'hui. Ça s'apprend, ça se travaille, faut appréhender, s'approprier un langage, construire un langage, faut aussi construire ses formes, réfléchir à la forme de la pièce, et puis à la progression aussi, au discours, à la progression, et puis à ces thématiques aussi, les thèmes sont vraiment très importants, tous ces éléments se réfléchissent avant, et ce travail, ça se prépare, ça demande vraiment un apprentissage.
En fait, il faut se créer sa propre bibliothèque de connaissances, déjà des pièces, il faut s'approprier des... En fait, il faut composer sur la composition, déjà en suivant la composition, en y restant fidèle, mais en y apportant, c'est un dialogue en fait avec l'œuvre, l'improvisation, sur un temps direct. Et on sort plus ou moins des tiroirs et on se dit, hop, là je vais mettre tel mode, tel... C'est ça, n'est-ce pas ?
Il y a une part de conception avant de se lancer. Voilà, on réfléchit à ses thèmes, on réfléchit à sa forme, à ses couleurs sonores. Mais il y a une part d'imprévu, il y a une part de direct. Il peut tout se passer finalement pendant cette improvisation. On s'est effectivement approprié une bibliothèque, des auteurs, différents langages. C'est le premier travail de l'improvisateur, c'est de s'approprier, d'analyser, d'écouter beaucoup cette évolution du langage, pas que à l'orgue, hein, évidemment la musique pour piano, la musique symphonique, la musique de chambre, la musique vocale, et puis une fois qu'on s'est approprié ça, on se construit son propre langage, ou ses propres langages, on peut improviser dans plusieurs langages différents, voilà, et on est parti pour de l'insaisissable, une aventure, une pièce qui va disparaître au fur et à mesure qu'elle est créée. C'est magique ça aussi.
La magie, l'insaisissable, une aventure, une pièce qui va disparaître au fur et à mesure qu'elle est créée. Pour ce faire, il faut une âme et Olivier Perrin en possède une, grande, belle. Il est épanoui parce que comblé, il est en symbiose avec son orgue pour sa sonorité ronde, veloutée, pour sa mission, offrir toute la beauté possible à la liturgie. Et comment arrive-t-on à toucher cette magie ? N'oubliez pas que nous sommes à l'intérieur de la messe du 14 mai 2026 et que nous la vivons de l'intérieur. Eric nous guide également.
Moi, je suis né dans la liturgie, j'aurais envie de dire tout petit. Mes parents m'emmenaient à la messe, j'étais fasciné par l'orgue, par le rôle de l'orgue. Et j'ai très jeune accompagné pour commencer les cérémonies du catéchisme. Et puis petit à petit, on me demandait d'accompagner des cérémonies de plus en plus importantes. Ça, c'était dans ma paroisse natale à Saint-Martin-d'Olivet. Et ma vocation d'organiste, elle est venue avec la liturgie. Donc je suis pleinement heureux, pleinement épanoui à la Madeleine. D'abord d'avoir aussi un curé qui est très sensible à la liturgie, qui prend soin de la liturgie, qui est très attaché à la beauté. Et l'orgue contribue évidemment à la beauté de la liturgie, et donc c'est un rôle que je prends très à cœur. On a aussi la chance d'avoir un instrument extraordinaire au niveau des sonorités. Le grand orgue historique Cavaillé-École de la Madeleine, c'est un des plus beaux de Paris, et ce sont vraiment des sonorités veloutées, rondes, qui portent vraiment. Donc voilà, je suis un organiste liturgique pour cette partie-là de mon métier, absolument comblé.
Cette partie-là, il y a une autre partie ?
L'autre partie, c'est la partie concertiste, voilà, qui est non moins exaltante aussi. C'est un autre métier, voilà, mais j'aime beaucoup aussi ce métier de concertiste qui donne à découvrir à chaque fois des instruments nouveaux, qui demandent à s'apprivoiser. l'un à l'autre. Et c'est aussi passionnant comme activité.
Là, vous reprenez.
Oui, tout à fait.
Complexité par rapport à l'orgue de chœur. On en a parlé avec Michel Geoffroy, qui a, là est juste à côté du chanteur, à côté du célébrant. Là, l'organiste du grand orgue est à au moins 60 mètres. Et tout tombe juste. Il faut bien reconnaître que il y a absolument pas d'écart entre le soliste et chanteur et l'organiste à 60 mètres de là.
On va dire que c'est le fruit d'une grande expérience, d'une longue expérience. Ça fait une quarantaine d'années finalement que je fais ce métier, parfois dans des acoustiques très vastes comme ici. J'ai été organiste à la cathédrale d'Orléans, alors vous imaginez aussi l'acoustique, à Saint-Paul-Saint-Louis à Paris. Et à la Madeleine, donc, depuis quelques années. Et la première des choses à faire, c'est d'anticiper. Il faut vraiment que le grand orgue soit avant le chant pour que ça paraisse, ce soit synchronisé en bas. Heureusement, on a des retours, hein. On a un petit miroir pour voir l'autel. On a aussi ces écrans de télévision pour voir différents endroits dans l'église, notamment les processions, où sont les processions. On a un retour son. Il faut gérer aussi effectivement la registration, puisqu'on n'accompagne pas tous les chants de la même façon, avec les mêmes mélanges sonores. Voilà, faut être, je dirais, à 10 000 endroits à la fois. Mais c'est aussi ce qui rend ce métier passionnant. Et puis chez moi, c'est aussi une démarche de foi, puisque je suis profondément croyant. C'est aussi une démarche spirituelle. Voilà, je mets aussi toute ma foi dans mon jeu. Donc ça a vraiment encore plus de sens pour moi.
Merci Olivier Perrin, la voix des anges, la voix céleste. Sur un grand orgue cavaillé-colle comme celui de la Madeleine, l'organiste dispose d'une palette de couleurs sonores incroyables. La voix céleste, c'est un jeu de fond, des flûtes ou des cordes, légèrement désaccordées par rapport aux autres, et ce minuscule écart crée un effet d'ondulation, un vaporeux mystique qui semble flotter dans les airs et les flûtes et les bourdons dans les nuances très douces, ils évoquent un murmure lointain, presque irréel. La voix céleste devient le chemin invisible que trace la musique entre la terre et le ciel. L'improvisation, par sa nature éphémère et instantanée, s'apparente à une inspiration presque divine, un dialogue poétique sans mots où les notes s'envolent sous la voûte pour guider l'esprit vers la méditation. La voix céleste est l'un des jeux les plus célèbres, mystiques et envoûtants de l'orgue. C'est un tapis, nous sommes dessus. Et c'est délicieux.
Nous sommes perchés à plusieurs mètres, on peut dire. On surplombe la Madeleine. Est-ce que c'est un peu la voix des anges ? Est-ce que vous colorez avec votre orgue la Madeleine d'une masse sonore et comme si nous étions des anges ?
Eh bien, à l'orgue, il y a un jeu qui s'appelle la voix céleste. Vous voyez, donc effectivement, tout l'orgue est une voix des anges quelque part.
entendre la voix céleste. Caractéristique de l'orgue symphonique, ça provoque une légère vibration et c'est un mélange très très expressif qui est une des particularités de cet orgue. Et à la Madeleine, on a le premier jeu de voix céleste au monde, une invention de Cavaillé-Coll. Alors là, je me prépare pour le morceau de communion qui est un choral de Marcel Dupré, un très beau choral pour le temps qui nous amène à la Pentecôte bientôt sur le Saint-Esprit.
Les tournes de page sont facilités.
Et oui, j'ai ma tablette, j'ai un tourneur Bluetooth, c'est bien pratique.
Je peux m'asseoir à côté de vous ?
Oui, tout à fait, attention à vos pieds.
Sans vous déranger, oui, oui.
Ouais. Et c'est parti. Très beau ce choral. Un œil sur l'écran, tout va bien, j'ai encore le temps.
Oui, il y a encore un petit peu de monde dans la nef.
Ce soir. Il va falloir que j'improvise un peu après. Je reviens encore une fois en arrière. On va faire quelque chose d'un petit peu différent. De pied. fameuse voix céleste.
Fonction de l'organiste,
oui.
Derrière
du cockpit.
Exactement, d'autant plus sur
le décollage, l'atterrissage, le vol, voilà.
Sur un grand orgue comme celui-là, c'est à 60 mètres de distance de la scène, on va dire ça comme ça. Mais, ça demande vraiment un vrai professionnel.
Depuis 40 ans, tous les textes, tout l'ordinaire, tous les textes du missel que lisent les prêtres, je les connais par cœur.
Et vous avez commencé à quel âge ?
Ah, j'ai commencé à jouer, à accompagner des célébrations à l'âge de 13 ans. Ça vous donne à peu près mon âge. Donc voilà, oui, 13 ans. Ouais. Ah ben, j'étais passionné. J'ai mené toutes mes études générales et tout, mais alors ceci dit, j'étais pas forcément sûr de faire mon métier dans l'orgue. Je voulais être expert comptable. Donc l'orgue m'a rattrapé à l'université finalement. Après le lycée, finalement, la comptabilité, on m'a dissuadé. Mon prof d'économie m'a dissuadé de faire de la comptabilité.
Il a bien fait.
Voilà. Et je lui rends hommage parce que peut-être sans son avis, je ne serais pas là à la Madeleine aujourd'hui.
Mais vous dirigez quel conservatoire ?
Alors, je dirige actuellement l'école supérieure musique et danse Hauts-de-France-Lille, qui est une école qui forme les musiciens, les danseurs professionnels de demain. Certaines traditions, de certaines normes aussi, et puis de l'ambiance qu'on veut créer.
C'est un orchestre en soi.
Oui, c'est ça, j'ai un orchestre sous les doigts, au bout de ma baguette finalement. Ouais. Thank you. réverbération. Voilà. Ce qui oblige à articuler donc un jeu tout à fait particulier qui doit s'adapter à cette acoustique, donc bien articuler, bien respirer, écouter l'orgue sonner, ne pas reprendre tout de suite après un point d'orgue, après une respiration. Voilà, et c'est aussi l'art de l'organiste de s'adapter à l'acoustique, à l'instrument, évidemment, mais aussi à l'acoustique du lieu. C'est ce qui rend ce métier aussi passionnant quand on passe d'un orgue à l'autre pour les concerts, c'est de, donc je parlais d'apprivoiser, de s'apprivoiser l'un l'autre, y compris l'acoustique. Et voilà, c'est ce qui rend ce métier assez exaltant de découverte.
Vous êtes essoufflé ?
Un petit peu, oui, c'est un peu physique, vous voyez, on joue avec les pieds, on change de clavier, on s'agite un petit peu autour des claviers pour choisir les registres, on tend le pied pour trouver une combinaison qui soit la bonne. C'est un métier assez physique, organiste, oui, tout à fait.
Là, vous avez ouvert tout l'orgue, on peut dire, c'était... Vous pouvez nous raconter ce que vous avez joué et comment vous l'avez senti, si c'est possible ?
Alors, c'est une pièce pour le temps pascal, c'est dans un langage néoclassique, c'est une pièce sur le thème grégorien du Christus Vincit, donc c'est vraiment un chant de victoire. Ce qui explique l'écriture même de cette pièce, les envolées de gamme et de traits, les grands accords. Et puis, ce qui explique aussi l'enregistration qui est assez forte d'un bout à l'autre, avec toutefois quand même des contrastes et des échos. Et donc on arrive pratiquement sur le tutti de l'instrument, vraiment signe de la victoire du Christ ressuscité.
Et contrairement à la pièce précédente, j'ai vu que vous savouriez les blanches, par exemple, vous les laissiez traîner et il y avait votre corps comme ça qui s'élevait un peu. Et là, on n'a pas eu cette possibilité, en fait. J'ai trouvé que c'était que vous étiez vraiment dans l'action comparé à la pièce d'avant, où vous aviez des pauses et hop, une respiration comme ça. Mais c'est ça ?
On ne fait pas chanter l'instrument de la même façon en fonction du caractère de la pièce. Effectivement, cette pièce, on a un jeu un peu plus martial, un peu plus tonique, et ça se traduit corporellement. Effectivement, le toucher va pas être le même, on va pas rentrer dans le clavier de la même façon, on va pas, le corps va pas accompagner les doigts et les mains de la même façon que dans ce petit choral sur le Saint-Esprit. Sans doute le Saint-Esprit est enveloppant d'une façon très très douce, et donc du pré à créer une ambiance qui nécessite effectivement de faire chanter le thème, de le faire chanter avec le plus de souplesse possible, de l'écouter, de le faire respirer, de prolonger certaines valeurs. C'est ça tout l'art de l'interprète finalement, et c'est tout ça qui n'est pas écrit sur la partition, que l'interprète va s'approprier, va faire chanter à sa façon, va vraiment interpréter la pièce avec toutes ses intentions musicales qui vont lui donner une certaine expressivité, un certain caractère, et dans l'idéal qui doit coller avec la volonté du compositeur et avec le lieu.
La pièce que vous avez jouée à la sortie est de Jean Langlais, c'est l'acclamation de Jean Langlais, c'est ça ?
Oui, les acclamations carolingiennes. De la suite médiévale, voilà, une suite basée du reste sur des thèmes anciens. Et le Christus Vincit, on l'a chanté ici, on l'a chanté le jour des rameaux pour célébrer la grande entrée triomphale du Christ avant sa passion. On pourrait, et du reste, plutôt le chanter à Pâques pour la résurrection. Le Christ a vaincu la mort, alléluia, alléluia. Et donc on n'a pas trop de tout ce tutti de l'instrument pour fêter ça dans la joie.
Vous pensez que c'est l'instrument idéal pour comme médium de cette parole ?
Pour moi, oui, je pense que l'orgue est sans doute l'instrument le plus approprié pour pour colorer, pour caractériser la liturgie, pour faire passer ce message, pour toucher l'âme des fidèles, pour provoquer chez eux des sensations, pour les émouvoir, pour les faire aller, les mettre un peu plus facilement en connexion avec l'au-delà, on va dire. Et l'orgue symphonique, j'ai un attachement particulier à l'orgue symphonique, puisque vous voyez toute cette richesse de timbres, du plus doux au plus fort. Pour moi, l'orgue symphonique est celui qui a la palette la plus appropriée justement pour traduire tous ces états, tous ces états d'âme, tous ces chants de tristesse, tous ces chants de victoire. Oui, c'est et c'est pas pour rien que l'Église catholique l'a choisi comme étant l'instrument qui servira à la liturgie.
C'est votre orgue préféré ? Vous avez un orgue préféré ?
Ah oui, je peux dire comme ça sans réfléchir que c'est l'orgue de la Madeleine qui me touche le plus, qui m'émeut le plus quand je l'entends jouer par d'autres, mais aussi quand je le joue. C'est vraiment mon instrument préféré.
Sinon, vous êtes à l'orgue de chœur ou non ?
Non, ce sont des fonctions bien distinctes. Ça m'arrive de remplacer l'organiste de chœur, mais il y a un titulaire à l'orgue de chœur dont le métier va être un peu différent, va être plutôt d'accompagner les offices de semaine, les enterrements, d'accompagner aussi les mariages et d'accompagner des chanteurs, des chœurs. Donc un métier plus tourné vers l'accompagnement. C'est un métier formidable aussi.
Michel Geoffroy, c'est
ça ? Tout à fait.
Je l'ai rencontré.
Voilà, qui est un super collègue, un super musicien qui écrit, qui compose, qui arrange, qui harmonise, qui a vraiment ce métier dans la peau. Et on est très complémentaires. Ça nous arrive de jouer ensemble, puisqu'il y a des grandes cérémonies pendant lesquelles il y a les deux orgues qui se répondent, qui alternent. Ça, c'est tout à fait exceptionnel aussi. Il y a une connivence entre nous de ce fait. Mais alors, au grand orgue, finalement, avec la liturgie d'aujourd'hui, où le grand orgue ne joue plus seulement les pièces comme c'était autrefois, où il accompagne le chant des fidèles et où il improvise, finalement, c'est peut-être le métier le plus complet. Même si on est très loin, on est très haut, on est très loin, on est finalement tout près de ce qui se passe et c'est absolument exaltant.
Nous touchons à la fin de notre entretien avec Olivier Perrin. Nous descendons l'escalier du grand orgue avec lui.
Alors là, on descend les marches qu'ont prêté tous les organistes. À chaque fois, ça me fascine parce qu'il y a encore la mèche.
Oui, oui, oui. Le bec de gaz, ouais.
C'était l'éclairage au gaz.
Rien n'a été changé.
Ah, bah. Si ce n'est qu'ils ne servent plus maintenant. Enfin, ils sont toujours là.
Thank you.
Nous venons d'écouter un extrait de la symphonie pour orgue en ut mineur, opus 78 de Camille Saint-Saëns, cinquième symphonie du musicien. Son écriture s'étend entre 1885 et 1886 et elle est dédiée à son ami Franz Liszt, décédé le 31 juillet 1886. Avant de quitter Olivier Perrin, on reste avec lui pour deux propos, la nuit et le temps présent. Il nous parle de la nuit dans l'église de la Madeleine la Belle, qui s'inscrit dans l'histoire. La Madeleine, son son sculpté par son architecte. Alors moi j'ai une question, comment vous travaillez votre instrument? Parce que vous n'avez pas d'orgue chez vous.
Alors j'ai un vulgaire orgue électronique, sans émotion, ça rend service. Non, je travaille et puis en semaine, je suis très occupé par mon métier de directeur d'établissement d'enseignement artistique. Je travaille essentiellement ici, à la Madeleine, à Paris, la nuit, quand l'église est fermée.
D'accord.
Donc le soir, après les concerts, parce qu'il y a souvent des concerts. Voilà, je suis un peu un oiseau de nuit dans mon travail de l'orgue.
Oh, ça doit être beau de travailler tout seul ici quand l'église est fermée, non ? Ça doit être une atmosphère particulière.
Ah oui, c'est magique. Il se passe quelque chose d'incroyable. Oui. On est tout seul comme ça dans le noir, alors il y a quelques bougies et tout.
Dans le noir, vous êtes dans le noir avec les bougies ?
Alors je ne cache pas qu'au début, les premiers mois, j'étais pas très rassuré. Dès que j'entendais un bruit... Tantôt, j'appelais le sacristain en lui disant « Vous êtes sûr que personne n'est enfermé dans l'église ? Vous avez bien fait le tour ?» Parce que j'entends des bruits. Voilà, non, mais après, on s'habitue. C'est un lieu qui est habité d'une autre façon la nuit. Et puis la nuit, le chronomètre s'arrête. On a tout le temps devant nous. Et voilà, c'est assez magique de travailler sur cet orgue. C'est une grande chance, c'est un luxe de travailler sur un instrument comme ça pour son travail quotidien. Voilà, donc c'est vraiment aussi mon instrument de travail.
Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette église, la nuit ? Qu'est-ce qu'elle vous... Elle est différente ?
C'est une question difficile. Il se passe quelque chose la nuit. Déjà, je pense très souvent à ces grands musiciens qui ont fait sonner ces voûtes, qui ont aussi sans doute travaillé la nuit, à Camille Saint-Saëns, à Gabriel Fauré. Je pense souvent aussi à toute cette belle musique que ces voûtes ont fait résonner, ont entendu, ont restitué au public pendant tous ces siècles, parce qu'il y a une tradition musicale telle dans ce lieu. Donc ça, c'est très impressionnant et j'y pense beaucoup, beaucoup la nuit. On s'inscrit dans cette histoire, c'est incroyable, c'est incroyable.
Vous pensez que le son a le pouvoir de sculpter en fait une atmosphère peut-être pas...
Ah oui, on a un pouvoir incroyable avec l'orgue. Il suffit de tenir un son très grave. Il se passe tout de suite quelque chose et puis ça va rentrer en résonance avec l'église. Donc le grand orgue de la Madeleine dans une autre acoustique ne serait pas le grand orgue de la Madeleine. Donc là c'est la combinaison des deux qui est absolument géniale, et l'un sans l'autre ce ne serait pas pareil.
Donc, oui, ça c'est fascinant, ouais. Je ne sais fascinant. Même ouais, plus quoi dire.
Le son est façonné par le facteur d'orgue, par des questions physiques, la taille des tuyaux, les rapports, le métal, tout ça. Mais aussi le son est façonné par cette architecture. Et donc c'est un mélange, un alliage, une combinaison unique.
C'est la voûte et la charpente qui donnent la sonorité de l'édifice en fait.
Oui, mais aussi le fait qu'il n'y ait pas de chapelle latérale, le fait qu'il n'y ait qu'une nef, chaque arche a son rôle. Donc c'est vraiment tout un ensemble de choses, le revêtement, la pierre, la peinture, la poussière aussi, la poussière, la suie, voilà, cette couche qui s'est accumulée pendant des siècles joue un rôle aussi. Cette auscultation du son.
Qu'est-ce que vous pensez du temps présent ?
Ah, bah heureusement qu'il y a la musique, et heureusement qu'on peut oublier un petit peu, et que la musique nous aide à garder dans le temps présent une espérance. Moi, si j'avais pas l'orgue pour porter en moi cette espérance, si j'avais pas ma foi aussi, le temps présent serait très difficile à vivre, je pense. Beaucoup d'angoisse. Voilà, cet instrument est tellement porteur, tellement apaisant, que ouais, oui, il aide beaucoup à vivre le temps présent. Ouais.
C'est une communion. Vous vivez une communion avec votre instrument. Vous le...
Oui, en quelque sorte, oui, on peut parler de communion, tout à fait. Ouais. Ouais. Merci.
Pardon.
Mais oui, c'est tellement émouvant. Ces sonorités, ce qu'on arrive à créer comme émotion, c'est le but, ça veut dire j'ai gagné.
C'est quoi votre ligne éditoriale, entre guillemets, de l'enseignement musical? Qu'est-ce que vous donnez à vos élèves? Vous avez l'air de donner beaucoup, donc j'imagine qu'ils doivent recevoir beaucoup.
La rigueur, le travail, l'exigence, ça ce sont les piliers, et la générosité. Voilà, tout est là.
Ça, ce sont des beaux mots de fin, je trouve, n'est-ce pas? Je vais vous laisser, vous laisser respirer.
Oui.
Et je vous remercie pour le temps et j'espère qu'on ne vous a pas trop dérangé pendant votre improvisation.
Non. Vous savez, un organiste a l'habitude de faire au moins deux choses à la fois, si ce n'est beaucoup plus.
Oui. Merci beaucoup, Olivier Parent. Merci.
Merci, Olivier. Merci.